Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. C'est le taux de pauvreté actualisé par l'INSEE. C'est 2022, on est à 14,4%. C'est stable, mais c'est quand même un taux élevé si on regarde les 30 dernières années. Et puis il y a ce taux de privation matérielle et sociale qui lui monte légèrement. Il monte au-delà de 13%. L'INSEE identifie 13 critères et si vous rentrez dans 5 de ces 13 critères, vous êtes en état de privation matérielle et sociale. C'est ce que l'INSEE appelle pauvre en conditions de vie. Il y a un autre chiffre très intéressant sur le taux de pauvreté, c'est jour-nuit en fonction des gens qui bossent, qui sont salariés, et ceux qui malheureusement n'ont pas d'emploi. Ce qui veut dire que c'est bien la clé, l'une des clés de réponse est là. Et donc derrière, se posera aussi la question de ceux qui travaillent, arrivent-ils à vivre correctement ou avons-nous un vrai problème de salaire net en France ? Ce qui m'amènera à vous faire réagir, à faire réagir mes invités sur la proposition choc de l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, Antoine Fouché. Il faut financer différemment la protection sociale, dit-il. Alors on va fiscaliser l'héritage, fiscaliser l'investissement, fiscaliser les retraités, voilà ce qu'il dit. Le chiffre de Bruno Le Maire, il faut désormais 25 milliards d'euros d'économies pour tenir les comptes en 2024. Il risque, nous risquons, dit-il, un naufrage économique et financier. Et puis au passage, il a été dédouané par un rapport de l'Inspection Générale des Finances sur la transparence des comptes 2023. L'IGF indique que ce dérapage pouvait en grande partie, enfin n'était pas anticipable pour une grande partie. On reviendra aussi sur les fameuses mesures du nouveau Front Populaire qui tétanisent tant le patronat notamment. On en parlait hier, le SMIC à 1600 euros net. Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes. Vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. On dira un mot de l'intelligence artificielle. Vous êtes l'auteur de ce fameux rapport dont on a parlé et puis il en était aussi question dans les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Bonjour Stéphane Van Uffel.
Bonjour Nicolas.
Co-fondateur de netinvestissement.fr. Vous me direz ce que vous pensez des propos de Sandrine Rousseau sur comment l'épargne des Français pourrait nous aider.
Vous me gâtez de bon matin.
Voilà, pourrait nous aider à participer au désendettement de la France. C'est pas très 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 clair, mais enfin on voit un peu l'idée qui est derrière.
Oui, quand même.
Il y avait quand même l'idée de contrainte hein, et d'obligation.
Voilà. Évidemment.
Oui, oui.
Sandrine Rousseau.
Bon, le taux de pauvreté. Je sais pas, Éric, comment aborder le sujet en fait. Parce que je me dis, est-ce que c'est une simple photographie ? On se dit, tiens, nous en sommes là. Ou est-ce qu'il faut l'aborder sous l'angle, voilà ce que nous disent les chiffres, voilà comment les gens pensent les choses, et souvent sur ce type de sujet, comme par exemple sur à quel niveau est l'inflation, il y a un grand écart. Il y a un grand écart sur les stats, qui sont toujours froides, qui sont toujours cliniques, parce que derrière c'est la vie des gens dont il est question. Et c'est très très difficile à traiter en fait pour nous, sur un plateau de radio-télé.
Non mais c'est vrai, non mais peut-être aussi il faut rappeler c'est une statistique et ce qui est intéressant c'est d'avoir plusieurs statistiques, on peut pas tout résumer en une seule statistique et souvent on dit tiens le taux de pauvreté n'a pas augmenté donc tout va bien. Non, ouais, il faut essayer d'un petit peu creuser l'histoire. Peut-être rappeler en deux minutes, le taux de pauvreté, c'est lorsque votre revenu est 60% en dessous du revenu médian. Et donc, le revenu médian, c'est ce qui divise en deux la population. Il y a là 50% qui gagnent plus, 50% qui gagnent moins. Alors, vous voyez, pourquoi ça, c'est tout de même important de le rappeler, c'est que vous pouvez très bien, grâce au transfert, assurer qu'une partie de la population ne descende pas en dessous de ce taux de pauvreté. Et donc, c'est grâce au transfert. Donc, si on est arrivé à 14%, il y a une stabilisation, c'est parce qu'il y a beaucoup de transferts en France. D'accord?
Mais on a quand même 14%.
On a tout de même 14%.
9,1 millions.
Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est si on n'avait pas ces transferts, on ne serait pas à 14%. Alors, nous, on a plutôt la statistique. Alors, vous voyez, ça, c'est la statistique française. C'est à 60% du revenu médian. Au niveau international, c'est plutôt à 50%. Donc, c'est pas exactement les mêmes chiffres. Mais globalement, la statistique internationale, ça veut dire, globalement, si on n'avait pas de transferts, on serait plutôt à 25% de taux de pauvreté et on descend d'accord, avec un taux de pauvreté au-dessus de tout le monde, et grâce aux transferts, on descend à des taux de pauvreté en dessous de tout le monde, d'accord. Ça, c'est assez important à le dire. Mais pourquoi je reviens. Vous voyez, donc, vous pouvez, grâce à des transferts, essayer de maîtriser le taux de pauvreté. Ça ne veut, mais vous voyez, le problème, c'est les personnes qui sont au-dessus de ce taux de pauvreté, d'accord, qui n'ont pas eu d'aide, en fait, en gros, globalement.
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire.
Et ben oui, mais là, l'inflation, et vous voyez, là aussi, on dit que tout le monde a la même inflation. C'est calculé avec une inflation qui est commune. On sait que c'est faux. On sait que tout le monde n'a pas la même inflation, selon que vous soyez un ménage rural, urbain, âgé, pas âgé, aisé, pas aisé. Enfin, il y a autant d'inflation quasiment que de personnes. Et donc, ce qu'on a fait pendant cette crise globalement énergétique, on a essayé d'indexer tous les minima sociaux, tout le bas, la distribution pour justement qu'il n'y ait pas une explosion de la pauvreté. Ben, on peut dire bravo, ça a marché, il n'y a pas eu d'explosion de la pauvreté. Le problème, c'est les personnes qui sont juste au-dessus, qui, elles, par contre, ont perdu en pouvoir d'achat. On sait, les revenus n'ont pas augmenté comme l'inflation. Et donc, si vous êtes un peu au-dessus, donc vous dites, ben, vous voyez, le taux de pauvreté n'a pas augmenté, mais ma situation s'est détériorée. Et donc, c'est ça que révèle un certain nombre d'autres indicateurs qui disent qu'en fait, globalement, et vous voyez, les gilets jaunes, souvent, c'est pas les plus pauvres qui vont manifester. C'est des personnes qui sont pas assez riches pour avoir les minima sociaux. Et pas assez riche pour bénéficier, parce que c'est un autre élément qu'il n'y a pas dans ces statistiques. C'est, on ne parle que du revenu, mais il y a le patrimoine. Mmh. Et le patrimoine n'est pas réparti de façon égalitaire. Et vous voyez, aujourd'hui, quand vous avez du patrimoine, vous avez peut-être un peu moins de besoins parce que vous avez déjà votre logement, parce que vous avez déjà épargné pour votre retraite, parce que ce patrimoine tient une retraite. Donc vous voyez, c'est en cela où il faut aller dans plein d'indicateurs. Cet indicateur, je ne veux pas dire qu'il faut le casser, c'est très bien, il faut en avoir, il faut le suivre. Mais ça ne révèle pas tout, et donc il va falloir creuser et regarder dans toute l'hétérogénéité des statistiques.
C'est difficile de parler de la vie réelle des gens avec des chiffres un peu froids et un peu cliniques. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. J'ai entendu, je crois que c'était Coquerel dire sur un plateau, les inégalités explosent. Non. Okay. C'est toujours ce qu'on entend, les inégalités explosent.
Elles explosent pas.
Je vous donne la parole. Et juste, il y a l'histoire du taux de privation matérielle et sociale. C'est terrible, ces critères. C'est terrible. Mmh. Il y en a 13. Il y en a 5. Si vous recochez 5 sur 13, vous faites partie de ces 13,1%. Mmh. Et c'est, par exemple, posséder 2 paires de chaussures en bon état. Réussir à se chauffer. À manger de la viande ou du poisson tous les jours. À partir au moins une semaine en vacances chaque année. Waouh! Oui, vous disiez, Philippe Aguillon, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu explosion des inégalités en France. Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a, un système fiscal quand même très redistributif. Et il y a eu et puis il y a les prestations. Il y a toutes les études de l'INSEE sur les prestations. Donc, en fait, si vous voulez,
sur le fait le système global.
Et redistributif lui-même. Voilà. Donc, on peut pas dire qu'il y a eu explosion des inégalités en France depuis 20 ans. Ça, c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai que le sujet de la pauvreté est sérieux. Et moi, par exemple, quand on a voulu durcir trop l'assurance chômage, moi j'étais très inquiet que ça augmente la pauvreté. Et le RSA conditionnel, j'ai aussi très peur que ça augmente la pauvreté. Voilà. Ou même des gens juste au-dessus de la pauvreté. Donc c'est vrai que
RSA sous condition de travail,
de travail, etc. Voilà. Moi, tout ce qui allait dans ce sens, un peu du programme en fait, des Républicains aux élections présidentielles, qui a été un peu ce qui a été mis en œuvre. En fait, depuis 2 ans, on a mis en œuvre le programme de Valérie Pécresse, en gros. Bon. Mais j'avais peur, si vous voulez, que ça ait des conséquences sur la pauvreté. Ça n'a pas été analysé. Moi, c'était un peu ma crainte, vous voyez. C'est pour ça que j'ai jamais été un fervent partisan du RSA conditionnel. Et je suis totalement opposé à la réforme d'assurance chômage qu'Attal voulait mettre en œuvre après la réforme Borne. Je suis ravi qu'elle ait été stoppée et j'espère qu'elle sera jamais reprise.
Point de détail, le décret.
Voilà, ces réformes-là, il faut regarder l'impact sur la pauvreté. Je crois que c'est très important.
Le décret de jointure prolonger uniquement les règles actuelles de l'assurance chômage qui arrêtait fin juillet va être prolongé jusqu'au 30 septembre. Voilà. Je pense qu'après le 30 septembre, on sera dans un tel autre monde politique qu'évidemment, elle ne sera pas ressuscitée, cette réforme de l'assurance chômage.
Je crois qu'on a mis un... Voilà.
Bon, ça vous inspire quoi? Parce que on est typiquement sur les sujets où celui qui nous écoute... J'ai fait une chronique récemment sur BFM TV. J'ai dit que moi, j'arrivais effectivement... Comment je peux faire autrement que d'avoir des données comme celle-là pour essayer d'analyser les phénomènes? Mais évidemment, ce sont des moyennes, c'est jamais la vie de personne. Oui. Et quand je viens sur un plateau de télé à BFM TV, que je dis « Ah, il y a des créations d'aides d'emploi !» Celui qui rame depuis 2 ans pour trouver un job, il pense que je dis du flan. Oui. Quand j'arrive et que je dis « Ça y est, les salaires commencent à rattraper l'inflation, le salaire réel va repasser en positif. » Le gars, lui, il a eu que 1% dans sa boîte. Mmh. Il se dit « Mais je sors d'où, moi ?» Et là, on est sur des sujets très sensibles. Je ne sais pas ce que ça vous inspire comme réaction.
Non, mais juste parce que c'était très bien dit par Eric et puis Philippe a complété. Moi, je dirais juste, évidemment, quand on est en dessous du seuil de pauvreté,
c'est 1216 euros, voilà, pour une personne seule.
Et ce qui n'est pas très éloigné du salaire minimum.
Enfin, 1400 le salaire minimum.
Et donc, on est dans une espèce de couloir d'étranglement entre une France en très grande difficulté, on va le dire comme ça, parce que franchement, même si le niveau de pauvreté en France n'est pas le même que dans d'autres pays d'Europe, et alors je ne parle même pas de pays du monde, où alors là, les revenus et les moyens ne sont pas du tout les mêmes, on ne vit pas avec ça. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'à partir du moment où il y a toujours comme ça des statistiques qui vous classent jusqu'à un certain niveau, c'est la petite frange, ce que disait un peu Eric, au-dessus. Ah oui, et moi, j'ai l'impression, quand vous écoutez un peu ce qui s'est passé dans la rue, les gens qui manifestent, celui qui n'a pas eu la sensation d'avoir son augmentation de salaire, etc., ben lui, il a l'impression, même si ce n'est pas le cas statistiquement, que lui, il s'appauvrit. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pourquoi est-ce que c'est l'inflation ? Est-ce que c'est notre vie qui devient de plus en plus consumériste ? Donc, on est obligé d'acheter beaucoup plus de choses qu'avant. Et en fait, finalement, on ne se rend pas compte que nos budgets, on les maîtrise pas comme avant. Je dis juste, il y a cette sensation, moi, qui peut-être... évidemment, la priorité, c'est la pauvreté. Mais les gens qui sont souvent en emploi, vous voyez, qui bossent, etc., etc., c'est ceux-là, à mon avis, qui râlent.
Celui qui bosse, il s'en sort pas. Oui, mais effectivement.
Non, c'est pas qu'il s'en sort pas. Il a l'impression de s'en sortir de moins en moins.
Il y avait une très bonne formule d'Emmanuel Macron pour qualifier ces gens, justement, qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches.
La France du rétroviseur.
C'était pas celle-là, mais c'était assez bien. Et alors, du coup, ça m'amène à vous poser la question du financement.
L'angle mort, quoi. L'angle mort du rétroviseur.
Ou la France de l'angle mort.
Un peu la sensation d'oublier.
Et effectivement, vous avez raison de rappeler que les ronds-points, c'était pas du tout des gens qui vivaient du RSA et qui étaient inscrits à l'assurance chômage.
À la base, c'était des retraités, surtout au départ.
Surtout au départ.
Mais d'ailleurs, je sais qu'on va aborder Pallion. Le sujet du SMIC. Mettre un SMIC à 1600 euros, ça va encore plus écraser la distribution des salaires. C'est ça le problème.
Ah, ça, c'est sûr que...
Donc il y a peut-être d'autres instruments que le SMIC, des primes d'activité ou d'autres instruments qui éviteraient justement d'écraser encore davantage la distribution des salaires. Vous voyez, c'est ça le problème. Un des problèmes du SMIC, c'est exactement ça. Ça va aggraver le sentiment de déclassement de gens qui sont juste au-dessus.
Et donc,
c'est pour ça qu'il faut s'attaquer au pouvoir d'achat. Mais le SMIC n'est peut-être pas le bon instrument pour le faire.
Et Nicolas, juste deux mots. J'ai la sensation que quand vous écoutiez tous ces gens qui étaient interrogés là pendant les élections législatives et qui vous parlaient, en fait, du pouvoir d'achat, alors là, les extrêmes se sont répandus sur ce thème du pouvoir d'achat. Moi, je pense que c'est pas ça qu'expriment les Français. C'est cette sensation, en fait...
De déclassement.
Ouais, c'est ça. Donc, ils ont l'impression, évidemment, d'avoir moins de pouvoir d'achat. Mais c'est juste parce qu'en fait, l'écart entre ce qu'ils estiment être vraiment le truc à ne pas atteindre et qui peut être extrêmement effrayant quand on est au SMIC aujourd'hui, on n'est vraiment pas loin, les mecs font des efforts et pour autant, ces efforts, ils ne les voient plus. Ils ne les sentent plus. Et c'est ça qui pousse peut-être à un vote extrême qui finirait très mal.
L'histoire dont vous parlez, Philippe Aguillon, c'est exactement ce que disait Stéphane Carcillo, qui est venu dans l'entre-deux-tours, qui avait fait qui avait chiffré. Il est président du groupe d'experts sur le SMIC. Et il disait qu'avec la prime d'activité, on évitait probablement les défauts d'une hausse violente du SMIC. Et en plus, on cible une population.
Moi, je préférais la prime d'activité.
Il disait, s'il s'agit de mettre 200 euros, on met 200 euros de prime d'activité et ça coûte plus 20 milliards. Mais 10 milliards d'euros. Voilà. Alors après, je vais revenir sur le calcul qu'on a fait avec Christian Chavagneux hier, qui lui défend la hausse de SMIC et qui considère que le coût net à l'arrivée serait de toute façon.
Oui, mais il répond pas à l'argument d'écrasement.
Un
argument aussi important.
Non, mais absolument.
C'est pas très clair en termes de coûts pour les entreprises, quand même.
On va en reparler.
J'aimerais bien revenir quand même sur quand on regarde les taux de pauvreté sur longue période. Moi, ce qui me frappe tout de même, c'est que, vous voyez, en 96, le taux de pauvreté était à 14 et quelques, et on a réussi à le faire baisser jusqu'en 2004 grâce aux créations d'emplois. En créant beaucoup d'emplois, le taux de pauvreté est passé de 14,4 à 12, à 13, enfin, non, même à 12,2, un truc comme ça.
On l'a
baissé de façon significative grâce au taux d'emploi. Ce qui est intéressant, là, c'est que le taux d'emploi aujourd'hui, dans la période récente, augmente de façon considérable et le taux de pauvreté augmente. C'est-à-dire, quand vous faites le taux de pauvreté entre 2019 et aujourd'hui, d'accord, il a augmenté alors que le taux d'emploi a augmenté. Donc, vous voyez, je pense que là, tout de même, il y a un petit... Alors, même si, encore une fois, il ne faut pas, avec un seul indicateur, faire des politiques. Mais cette idée selon laquelle en faisant augmenter les taux de le taux d'emploi, et que ça doit être ça la politique, augmenter le taux d'emploi, ça va suffire à tout régler, à régler les taux de pauvreté, à régler les déficits publics. On voit que, vous voyez, on a les taux d'emploi historiques. On n'a jamais eu autant d'emplois en France par rapport à la population en âge de travailler, et on n'a jamais eu autant de déficits, et on a eu et le taux de pauvreté ont augmenté. Donc attention.
C'est vrai. Non, c'est vrai ce que vous dites.
Donc attention cette simplicité, mais que j'entends quand même souvent, il suffit de. Vous voyez, ça, c'est quand même le raisonnement d'économie.
On arrive à expliquer.
Il suffit d'augmenter le taux d'emploi.
Mais nous ne l'avons pas dit.
Il y a quand même souvent cette idée. Il suffit d'augmenter le taux d'emploi et vous verrez, tout ira bien. Non, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça soit un emploi de qualité pour qu'il n'y ait pas le sentiment de déclassement.
C'est-à-dire
que.
Ça, c'est hyper important.
Oui, là, derrière, il y a quand même la désindustrialisation. Quand vous étiez il y a la polarisation du marché du travail. Avant, il y avait des emplois peu qualifiés, moyennement qualifiés, très qualifiés. Maintenant, on crée que des peu qualifiés, soit des très qualifiés. La classe intermédiaire, elle n'existe plus. C'est quoi? C'est la désindustrialisation. Quand vous désindustrialisez un pays, quelque part, des emplois moyennement qualifiés disparaissent et vous dites aux personnes, va travailler dans les services à la personne, va travailler dans les services. Ok, j'ai un emploi, mais ce n'est pas ma qualification initiale et mon salaire est quand même plus faible que celui que j'avais quand j'étais dans l'industrie. Parce que
c'est ce qui explique le raisonnement que vous venez. Alors,
et ben oui, et donc.
On revient typiquement sur l'écart entre le seuil. De pauvreté et les salaires de ces jobs-là, il est très clairement pas assez.
Non, mais c'est complètement implacable. Le taux d'emploi, effectivement, n'a jamais été aussi élevé. Le taux de pauvreté s'est accru. Il y a un sujet quand même. Et alors, quand on regarde là, les chiffres de l'INSEE, la pauvreté des salariés, elle recule. Elle est à 6,1%. La pauvreté des chômeurs recule
juste cette année.
Oui,
mais
de 0,1
point. De 2019, elle a augmenté. C'est ça qui est étonnant.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est 6,1% pour celui qui travaille, c'est 35% pour celui qui est au chômage.
Oui,
le taux, c'est juste. J'ai envie de vous répondre, Eric. Le travail est quand même un élément de la solution. L'emploi est un élément de la solution, même si effectivement ce que vous dites.
Non, mais
parce
que là vous ne regardez que contre
l'emploi. C'est-à-dire que ce que vous ne dites pas, Philippe, s'il n'y avait pas le taux d'emploi, le bête et la pauvreté aurait augmenté encore plus. Si le taux d'emploi, c'est pas l'augmentation du. Je ne crois pas qu'Éric soit en train d'expliquer que c'est l'augmentation du taux d'emploi.
Non, mais
la pauvreté. C'est une condition nécessaire et non suffisante. Voilà, je pense que c'est ça qu'Éric a voulu dire. Donc il faut d'autres politiques d'accompagnement, primes d'activité, qualification, etc.
On va y revenir dans un instant.
Mais Nicolas, forcément, à la stat sur les salariés qui sont dans le taux de pauvreté,
oui, 6,1%.
Ce sont des gens qui ne travaillent pas à plein temps, donc.
Je ne l'ai pas le détail.
Non mais forcément, c'est des gens qui sont à temps partiel. Et vous savez quoi, dans les temps partiels, c'est 80% des femmes,
bien sûr.
Avec des enfants.
C'est la grande démonstration du dernier bouquin de Gilbert Sept. La pauvreté laborieuse, c'est lié non pas au niveau du SMIC, c'est ce que j'ai expliqué à Marine Tondelier la semaine dernière, mais c'est lié au fait que le SMIC est un salaire horaire et quand vous n'êtes pas à 35 heures par semaine, mais à 12,
eh
bien.
Et après, si je peux rajouter un élément par rapport à ça, c'est vrai que effectivement, pourquoi on a l'impression quand même d'être un peu moins riche, même si nos revenus ont augmenté, c'est qu'on a une part de notre consommation contrainte qui est extrêmement importante. Et dans la consommation arbitrable, finalement, elle est de plus en plus faible et plus vous êtes modeste, plus cette part est faible. Et c'est quoi l'arbitrable? Eh ben, c'est l'alimentation essentiellement et c'est l'habillement. C'est-à-dire que tout le reste, les loyers, de toute manière, c'est un sort de forfait. L'internet, c'est du forfait et tout est du forfait. Et donc du coup, dès que vous avez un petit pépin, eh ben, vous arrêtez de vous alimenter correctement et vous arrêtez de vous habiller correctement.
Il y a un vrai sujet sur le loyer, quand même.
Parce que là, le loyer.
J'allais dire quand même que
depuis 24 mois, et se loger est devenu encore plus un impact sur le budget des Français.
C'est
déjà le cas depuis longtemps.
Tu as complètement raison. Et c'est là où les inégalités sont très fortes. C'est-à-dire que dans le calcul de l'inflation, on ne compte pas vraiment le fait que le loyer.
C'est un problème de l'IPC.
Oui. Et donc, quand vous êtes propriétaire, ce n'est pas le même problème que quand vous ne l'êtes pas. Là aussi, il y a des inégalités dans l'accès à la propriété.
Évidemment.
Juste avant de marquer une pause, généralement, on dit si on veut modifier le financement de la protection sociale, on passe du modèle bismarckien à un modèle beveridgien et on utilisera soit la TVA, soit la CSG. Et là, voici que l'ancien directeur du cabinet de Muriel Pénicaud dit non. On va taxer les investissements, on va taxer les vieux et on va taxer l'héritage. Ça vous inspire quoi? Vous avez une petite idée, Stéphane Van Eiffel?
De toute façon, on s'y attendait un petit peu que finisse toujours comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez de façon plus ou moins extrême.
Mais ça veut dire qu'on taxe beaucoup moins le travail et on augmente le salaire net.
Voilà. Pour l'instant c'est plutôt favorable dans le cas. Mais je trouve que derrière, les sources ne sont pas forcément hyper hyper fair play. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on pointe encore certaines catégories de personnes, et je fais partie des gens qui pensent que c'est pas forcément une bonne idée de toujours de réagir comme ça.
Bon, alors bien moins que la CSG, avec la CSG, vous ratissez large.
Mais bon. En plus.
Mais ça, mais
Eric Ayer.
Oui, mais enfin, moi je pense que qu'on remette à plat le financement de modèle social, c'est extrêmement important. À coût inchangé, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de dépenses sociales, d'accord, qui ne sont pas du salaire différé. Ouais, le bismarckien, ça devrait être ça, normalement. Non. Bah non, vous voyez, quand toutes les dépenses de famille, ou même une grande partie des dépenses maladie, ça n'a aucun sens, de mon point de vue, que ça soit financé par des cotisations. Alors, ça l'est de moins en moins, parce qu'on a transféré sur la CSG, mais on devrait quasiment tout transféré sur la CSG, ce qui est de la famille et ce qui est de la maladie. C'est tout le monde a droit à être bien soigné et tout le monde a le droit à des prestations familiales pourvu qu'on ait des enfants. C'est pas le fait de travailler, d'être salarié ou pas salarié. Donc qu'on passe sur l'impôt, d'accord, après qu'on choisisse le type d'impôt, pourquoi pas. Donc on fera baisser les cotisations. Mais en revanche, sur la retraite ou sur le chômage, moi il me semble que c'est encore normal que ce soit des cotisations d'accord. sociales parce que effectivement c'est des droits différés pour ces personnes. Et que l'employeur paye pour la retraite de son salarié ou paye sur tiens si je te mets au chômage et eh ben tu auras droit à quelque chose, je trouve pas ça donc et moi je pense que la CSG c'est le meilleur impôt.
Donc il faut pas aller taper les héritages,
ça devient un peu bizarre, oui, de
héritage, c'est pas jusqu'à quand.
Il y a toujours des histoires d'instruments, c'est-à-dire que je crois qu'il
faut
savoir quel instrument utiliser pour faire quoi. Chacun arrive avec son idée.
C'est bien ma question.
Le concours l'épine, quoi, tu vois. Ouais. Je crois que il y a un système de taxation optimale pour lever l'impôt, et puis ensuite il y a la redistribution qui est en elle-même un sujet, et on veut faire plusieurs choses puisque l'impôt est censé financer des dépenses publiques, des investissements et également redistribuer. Donc il faut faire très attention parce que sinon on arrive chacun avec une idée et on voit plus l'équilibre général et on voit plus l'ensemble, et on arrive avec quelque chose qui est pas cohérent.
Bah surtout que notre camarade Fouché, il parle évidemment des héritages. Je voudrais savoir comment il va faire pour encore plus alourdir la fiscalité des héritages, parce qu'en France, on a quand même déjà une fiscalité relativement sport sur l'héritage, mais c'est discutable. Moi, j'ai des solutions, s'il veut. Mais il parle aussi, si j'ai bien compris, de taxer l'investissement. C'est quoi taxer l'investissement? Les retraites, on a compris, c'est CSG, CRDS, c'est bon, de la petite retraite à la grande.
C'est une idée, hein, c'est pas un acte politique, attention.
Ça veut dire quoi, taxer l'investissement?
Il n'y a pas grand sens, je suis d'accord.
Non, mais on nous dit il y a un mois que la France est redevenue le pays d'Europe le plus attractif aux investissements étrangers, etc.
Pas sûr que ça dure, ça, tiens.
Bah, avec ça, vous imaginez bien que là. Alors,
on va voir qu'il pose.
Bon, il n'a pas creusé, hein, j'ai cherché, non. Il n'a pas creusé.
Dans un instant, je commencerai par vous, Philippe Aguillon, sur ces fameuses mesures, notamment le SMIC à 1600 euros net. J'ai repris les arguments hier de Christian Chavagneux, qui est quand même objectivement l'un des seuls à être venu défendre l'idée de monter le SMIC. La plupart de mes invités.
C'est pas mon domaine d'expertise, le SMIC.
Je vous ferai quand même réagir. Et puis, il y a également effectivement l'ISF avec l'outil de travail. Je pense que vous adorez cette idée, Stéphane Van Uffel.
Je suis fasciné.
Abrogation de la réforme des retraites, tranche d'IR à 90%. Il y a un chiffre que j'ai trouvé extra, je vais vous le donner tout à l'heure. Le fait d'avoir baissé l'IS en France a augmenté les recettes.
Mais oui, c'est ça.
Sur la période.
Donc, il y a un truc qui s'appelle la courbe de l'affaire. C'est ça dont je voulais parler.
Je voudrais en parler.
Parce que
On va en parler.
Mais Saez Zucman dit un truc hallucinant dans un des livres qu'ils ont écrit.
Oui, en 2021.
Ça n'a aucune importance d'être du côté négatif de la courbe de l'affaire.
Mais Zucman reconnaît qu'il y a un niveau au-delà duquel on sait que les recettes baisseront. C'est au nom de la baisse des inégalités, monsieur Aguillon.
Non, mais ce qu'il y a. Mais ça, je trouve que c'est inacceptable.
Je suis dans le rouge là. Il faut que je marque une pause.
L'affaire, c'est tout récent.
Voilà.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Philippe Aguillon, professeur au Collège de France et membre du Cercle des économistes qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Co-auteur d'Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champs Actuels, et Stéphane Van Huffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Je reprends juste les arguments de Christian hier d'Alternatives économiques. Bon, qui, vous n'êtes pas surpris, défend l'idée qu'on augmente le SMIC. Alors, il était quand même d'accord pour dire que plus 10, plus 12 ou 14% d'un coup, c'est peut-être un peu violent. Voilà. Mais il nous dit que sur l'emploi, les dernières études démentent l'idée qu'il y aurait des pertes d'emploi massives. C'est, dit-il, soit très faible, soit neutre. Après, sur le coût du travail, le grand argument qu'il développait était de dire que l'essentiel de la facture, en fait, reposerait à la fin sur l'État. Et pas sur les entreprises.
Pourquoi?
Ce qui a été démenti. Ah oui. Ben, il part du principe qu'on va considérablement alléger les baisses de cotisations en augmentant le SMIC, et que donc la facture des allègements de cotisations, c'est une facture globale, publique, collective, et c'est pas une facture qui repose sur les entreprises. Et qu'en fait, son idée était de dire que l'effet baisse de cotisations l'emporte à la fin sur l'effet destruction d'emplois, et qu'on a finalement un coût du travail moyen qui est plutôt baissier, disait-il. Et après, sur l'effet d'entraînement sur les autres salaires, là, effectivement, il y a des divisions entre les économistes. Je ne sais pas si vous achetez l'argumentaire. Éric, vous achetez l'argumentaire ?
Oui, j'achète l'argumentaire, parce que quand même, il repose sur ce qu'on dit à l'OFCE. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement voir tout cela. C'est-à-dire que quand vous prenez que la hausse du SMIC, en tant que tel, vous voyez, le problème du SMIC, c'est un salaire, et le salaire, c'est à la fois une notion d'offre et une notion de demande. Et donc, quand vous augmentez le SMIC, vous faites un choc d'offre négatif et vous faites un choc de demande positif. Et donc, il faut tout analyser. Donc, le choc d'offre.
Ce que vous venez de dire. Hein.
Ben oui.
Mais la demande, c'est aussi beaucoup de la demande sur les biens étrangers.
Attendez, je vais jusqu'au bout.
Du très bien, en 81, on a beaucoup augmenté les salaires, et puis ça a creusé le déficit commercial.
Je vais jusqu'au bout, et après, tu verras. Bien entendu que nos modèles sont en économie ouverte. Mais je répondrai à cela. Donc, il y a d'abord le choc d'offres négatif. Si tu regardes que le choc d'offres négatif, nous, les 12%, ça fait 350 000 destructions d'emplois. Donc, OK, on a et on retrouve les résultats de tout le monde. Sauf que, d'accord, ce choc d'offres n'est pas aussi négatif. Mais là, il faut faire une hypothèse. C'est quelle est la diffusion du SMIC sur les autres salaires.
Ah.
Eh bien, c'est ça. Mais oui, mais sauf que le SMIC, là, aujourd'hui, quand il augmente, les autres salaires n'augmentent pas à due proportion. Et donc, les salaires un peu au-dessus, en proportion du SMIC, baisse. C'est le tassement évoqué par Philippe tout à l'heure.
C'est une évidence.
Bon. Sauf que, puisque notre système d'allègement de cotisation sociale est assis sur la proportion du SMIC, eh ben, quand vous passez de 1,3 SMIC à 1,2 SMIC, eh ben, votre employeur touche plus d'allègement de cotisation.
C'est l'argument
Et donc, du coup, vous avez beaucoup. Et donc, le coût, le choc d'offre négatif, il disparaît. D'accord, il disparaît s'il n'y a pas de diffusion du SMIC sur les autres salaires. Mais attention, ça veut dire que c'est vite.
C'est hyper important, c'est macroéconomique.
Ouais. Après, si vous êtes une entreprise où vous payez tout le monde au SMIC, là vous prenez les 12%. Ça, il n'y a pas de machin. Mais si vous êtes une entreprise moyenne, d'accord, vous avez des personnes au SMIC, mais que vous avez du coup que 17% de personnes au SMIC, d'accord, qui est la moyenne, et vous avez une distribution, eh ben ça peut être à coût quasiment nul, mais attention, ça veut dire que le coût, il est porté par quelqu'un d'autre, c'est les finances publiques. Voilà. Et donc là, ça coûte et ça fait du déficit. Voilà. Et donc, d'accord, donc ça peut, le choc d'offre, il peut être nul, mais dans ces cas-là, on en vient à un choc de demande pure, financé par du déficit. Voilà, donc c'est. Voilà. Et là, vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon outil, d'accord, de financer un choc de demande par du déficit ciblé sur le salaire minimum. Donc, mais c'est ça les questions qu'on doit se poser. Alors ensuite, il y a des effets de demande, d'accord? Mais alors, là, on est d'accord. Un choc de demande, quand il est isolé, il est pas très bon. D'accord, il est pas très bon. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un choc de demande, de façon synchronisée avec vos pays européens. Si tous les pays européens, et c'est un peu la critique qu'on faisait au candidat NFP, c'est-à-dire faire une relance keynésienne quand tous les autres pays font de l'austérité. Ouais. Là, on sait qu'il y a une grande partie qui part à l'étranger. Ça, c'est évident. Alors, pas autant qu'on le dit tout de même. Il faut quand même être raisonnable. C'est-à-dire que vous voyez dans la consommation. D'accord, parce que c'est un choc permanent avec le SMIC, hein, c'est-à-dire vous augmentez le SMIC tout le temps, c'est pas vous donnez pas 200 euros à quelqu'un en une fois.
Oui,
et donc quand vous faites cela, et ben globalement, quand vous regardez la consommation des ménages, la part des produits importés elle est quand même relativement faible. Elle est à peu près de 12,5%. C'est-à-dire quand vous donnez 100 euros, il n'y en a que 12,5% qui part en importation. Le reste, vous consommez des services. Et les services, c'est fait à l'intérieur. Donc attention, ça fait quand même de la relance en interne, mais pas de façon optimale. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on doit financer par du déficit une hausse du SMIC? Bon, ça c'est ouais, ça la bonne question.
C'est très bien posé. Le débat
mais du coup, on voit bien que ça peut effectivement avoir des effets relativement neutres. Attends, et après je laisse la parole. Après, puisque c'est nous qui faisons ce calcul, il faut quand même donner la grande limite à nos calculs, c'est que nos modèles sont linéaires. C'est-à-dire que quand vous faites un choc de 1% ou quand vous faites un choc de 14%, le choc de 14% est 14 fois plus important qu'un choc de 1%. La réalité, à mon avis, c'est pas celle-ci. C'est-à-dire que quand vous faites un choc de 14% d'un coup, il est beaucoup plus fort que 14 fois le 1%. Et donc, attention, c'est ça qui va... Vraiment, c'est la grosse critique qu'on peut faire. Pourquoi pas un coup de pouce au SMIC? Mais pas de 14%, donc, pas de 12%.
Prime d'activité.
Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui est mauvais dans la prime d'activité. Je vois pourquoi être contre l'augmentation de la prime d'activité qui n'a pas la même conséquence
Elle n'ouvre pas de droits sociaux.
Elle n'ouvre pas de droits sociaux et quand même, c'est important. C'est important. C'est-à-dire que tu contournes le modèle social. Là.
Juste réaction, et puis après, je vais aller justement sur...
Je crois aussi, si vous, comme moi, le débat, c'est qu'il y a différents outils pour lutter contre la pauvreté. Un RSA amélioré, etc. Il y a, au niveau pour les gens qui travaillent, la prime d'activité et d'autres, alors on peut regarder pour les droits sociaux comment les étendre, séparément. Mais je crois aussi que l'important, on disait aussi le taux d'emploi. Mais en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut des emplois productifs et donc la formation. Et je crois que la clé, c'est d'innover et de former les gens à l'innovation. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Ce qui va vraiment pousser le pouvoir d'achat,
c'est les gains de productivité.
C'est l'exemple de l'Europe du Nord. J'innove et en même temps j'éduque et je forme les gens aux nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment le moteur le plus sûr d'augmentation à long terme du pouvoir d'achat. Après, il y a le court terme et il y a plein de solutions possibles. Mais si on veut une stratégie de long terme d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est ça la clé. Il n'y a pas d'autre clé que ça. C'est augmenter notre productivité grâce au progrès technique et à l'innovation et former les gens. En Allemagne, par exemple, ils ont ce qu'on appelle des semi-skilled workers, c'est des travailleurs qualifiés parce qu'ils ont un enchevêtrement entre l'école et l'entreprise depuis le début. Ils forment des gens qui sont entreprise-école. Ça marche très très bien. Et c'est ça qui aussi leur a permis de ne pas désindustrialiser autant que nous. Et je crois que la clé, c'est ces choses-là et le progrès technique et tout ce qu'on fait dans la formation, dans l'organisation de l'école pour et contre la désindustrialisation. Ça, c'est à mon avis des vrais moteurs d'augmentation du pouvoir d'achat. Après, le reste, il y a le court terme et il y a différentes choses qui peuvent être considérées. Mais je crois qu'il faut maintenant avoir des visions de long terme.
Ce qui me fascine, c'est que vous connaissez bien cette émission. Il arrive qu'il y ait des économistes qui soient d'obédience très opposée. S'il y a un truc qui met tout le monde d'accord, c'est que le moteur d'activité, ça s'appelle les facteurs de production et la productivité.
Oui, mais c'était pas
un économiste.
Oui, mais à une époque, on pensait que c'était la demande.
Oui.
Il y a eu une évolution. Même l'OFCE, qui était très keynésienne, elle est devenue keynésienne, schumpeterienne quand même beaucoup plus. Je sens que la culture a quand même. Je trouve que c'est une évolution très intéressante.
Je fais ce métier depuis suffisamment longtemps pour confirmer qu'effectivement l'OFCE 2024 n'est pas l'OFCE 1998.
C'est vrai. Attention, mais je sais pas de qui on parle. Mais quand vous prenez Fitoussi, excusez-moi,
mais c'est un très grand économiste.
Et il connaissait un peu tout cela et il rappelait quand même des évidences qui étaient extrêmement importantes. Donc je pense qu'on peut pas non plus balayer toute la partie fitoussienne de l'OFCE.
Stéphane Van Uffel, SMIC 1600, ISF avec outils de travail, abrogation de la réforme des retraites, tranche d'hier à 90%.
Donc sur le SMIC 2 secondes, si vous voulez bien, moi j'ai un vrai sujet, parce que c'est magnifique d'annoncer comme ça 200 euros net pour tout le monde, et tant mieux pour les gens qui sont au SMIC. Mais
tant pis pour ceux qui n'auront plus de boulot parce qu'ils sont pas assez
qualifiés. Alors d'abord, la question c'est, celui qui est déjà au SMIC aujourd'hui, il devient quoi? Celui qui a 1007 demain, il devient quoi? Celui qui a 1008, il devient quoi?
Celui qui a 1006, il devient SMICard.
Voilà.
Aujourd'hui.
Voilà. Est-ce que quelqu'un de la France insoumise, parce que ça vient de la France insoumise,
oui, c'est
NFP, donc proche des gens les plus pauvres, si on les écoute, nous sommes des grands méchants loups, eux, non. Ils n'ont pas réfléchi que toute une frange de gens qui s'étaient sortis de la smicardisation
vont y retomber.
Oui. Et l'impact psychologique ça fait quoi? Ben, ces gens-là, ils votaient de ce côté et ils vont faire quoi?
Voilà.
Ils vont aller de l'autre côté. C'est, ce genre de choses, déjà, me paraît aberrant, même de rentrer dans la démonstration économique.
Parce que d'activité.
La démonstration économique, Nicolas, ça, c'est très rapide. C'est, je trouve que c'est assez réduit. Même, Eric l'explique, vous savez très bien, toujours très, très bien, avec 1,2 SMIC au lieu d'1,3. Donc, il y aura des exonérations de charges. Très bien. Donnons-nous rendez-vous dans 6 mois, 1 an, si ça passe. Il y a des choses qui n'ont pas du tout été réfléchies dans le ruissellement. D'augmenter un seuil minimum. Tu augmentes un seuil minimum, ça veut dire que tu tires quelque part, non pas tout vers le haut, comme tu le crois, ou comme ces gens derrière toi, derrière vous, pardon, Nicolas, le pensent, mais tu vas voir que ça va resserrer les tranches, parce qu'en fait, les entreprises n'ont pas les moyens actuellement de faire un étirement vers le haut qui me semblerait à moi très logique. On augmente finalement tout le monde au prorata de leurs moyens. Et j'ai très très peur sur cette histoire du SMIC, parce que je pense que ceux à la fin qui vont se faire avoir, pas forcément ceux qui étaient vraiment au SMIC, qui étaient pas loin du seuil de pauvreté, mais alors ceux qui commençaient déjà un peu à s'en sortir, je reparle là-dessus à chaque fois, eux aussi vont recommencer à avoir l'impression d'être...
Moi, j'ai une autre question que je me posais, je ne sais pas si vous avez... Mais quel est l'employeur qui va embaucher quelqu'un qui est totalement non qualifié avec un salaire minimum pareil?
Bon, alors ça, non, on peut en discuter. Non,
mais je sais pas.
Si c'est là,
on a une idée, Eric, de ce qui peut se passer? Parce que quand on n'a aucune qualification...
Mais Nicolas, il le fera.
Il le fera quoi?
Mais ça dépendra de ce qu'il fait, de son entreprise. Mais il va le faire. Et si, parce que ce sera souvent le cas, de l'industrie, des produits manufacturiers, ça va se répercuter où, ce coût de travail supplémentaire de nos amis de l'extrême gauche?
Dans les prix.
Mais oui.
Dans les prix de consommation, que payent qui? Ben les gens qui ont pas forcément... Moi, ça ne changera rien pour mon pouvoir d'achat. Pour la personne qui est contente d'être augmentée, qui va se rendre compte qu'en fait, les prix ont augmenté à cause de ça. C'est tout le sujet de la notion que... Et là, je suis très impartial. Que ces deux extrêmes-là, pour moi, ça nage dans la smoule fort. Les choses, vous vous rendez compte, moi, je suis juste chef d'entreprise, je ne suis pas un grand économiste, etc. Des réflexes de base, vous faites le calcul 2 secondes. C'est comme quand, à l'époque, des pneus Continental, j'avais déjà raconté cette anecdote, les mecs voyaient leur usine fermée et être délocalisée, ils gueulaient, le journaliste interroge un des syndicalistes, le mec a des pneus Bridgestone. Pourquoi? Parce qu'il dit, le pneu Continental est trop cher, je ne peux pas me le payer. Donc il comprend, à ce moment-là, devant la caméra, qu'en fait, il gueule sur un prix qui est dû au coût du travail de l'usine en France, et donc le serpent s'est mordu la queue, il part, et lui est obligé d'acheter japonais. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans ces petites choses qui ne sont pas envisagées à l'avance quand on balance des infos comme ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Et que ça
fait en fait, si vous regardez le programme de la amateur, France, le programme du nouveau Front Populaire, il n'y a rien sur la productivité, il n'y a rien sur l'offre. Quoi. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'économie de l'offre.
C'est la grande critique de Patrick Artus.
Ils n'y comprennent rien. Quoi.
Non, ils iront chercher l'argent là où il est.
Donc voilà, c'est... Et on revient à l'idée aussi, c'est sur les impôts, c'est la même chose.
Mais je vais y revenir.
On va peut-être y venir.
Tout de suite.
C'est-à-dire qu'ils ne voient jamais, par exemple. Moi, je suis pas. Je l'ai dit, j'ai écrit plus. Là, j'ai fait des interviews dans différents journaux récemment. Je pense que c'est une erreur de faire de la non-augmentation d'impôts un tabou. Donc, je suis d'accord qu'il faut considérer que peut-être certaines taxes doivent être augmentées ou revues. Donc, je n'ai aucun tabou là-dessus. J'ai jamais été partisan du tabou Bruno Le Maire, aucune augmentation d'impôts. Donc, je suis très flexible. Il y a des choses qu'on peut changer et améliorer. On pourra en parler tout à l'heure. Mais on a besoin de l'impôt. L'impôt est redistributif, l'impôt finance des investissements. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui ne croit pas dans l'impôt. L'impôt est quelque chose de très important. Et on a un pays qui impose beaucoup en France. Et c'est important de le faire. Donc je ne suis pas du tout néolibéral, pas d'impôt, etc. Mais trop d'impôts tue l'impôt. On sait que quand il y a eu les réformes de 2017 en France, les réformes fiscales, les revenus fiscaux ont augmenté. Les revenus fiscaux ont augmenté. Ça veut dire qu'on était... Il y a une courbe qui s'appelle la courbe de Laffer, L-A-2-F-E-R. D'accord ? Cette courbe dit que si, partant de pas d'impôt, si j'augmente les taux d'imposition, évidemment, là, les revenus fiscaux vont augmenter, mais il arrive un moment où les revenus fiscaux vont se mettre à baisser parce que trop d'impôts va décourager. Les gens voudront plus faire. Ça va décourager l'entreprise, le travail, l'effort. Et puis, il y a des contribuables qui partiront ailleurs. Donc, si vous voulez. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que certaines mesures, comme par exemple des taux d'imposition à 90%, ça, c'est clairement du taux négatif.
Que
et il y a des gens qui ont inspiré le programme du Nouveau Front Populaire, je n'avais pas envie de taper sur le programme du Nouveau Front Populaire, qui ont écrit dans certains ouvrages, Zucman Saez par exemple, que ce n'était pas du tout un problème qu'on soit dans la partie décroissante de la courbe de l'affaire, si c'était pour plus de justice. On est prêt
au nom de la justice.
On est prêt à restreindre le gâteau. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pour un socialisme de production. production. Je pense qu'il faut produire et redistribuer. Je ne suis pas pour sacrifier
un plus gros gâteau.
La production. Voilà, c'est là ma grande différence. Je pense qu'il faut produire et redistribuer pour redistribuer mieux. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il faut certaines fois produire moins pour redistribuer mieux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est vraiment ma ligne de partage.
Trop d'impôts, tu l'impôt. Les autos, tu les totos. Voilà. Ou alors les autos, tu l'assiette. Enfin, vous le dites comme vous voulez. Je sais que vous êtes moyennement client. Mais moi, j'ai un chiffre.
Pourquoi après, je suis pas moyennement client.
Un chiffre et vous réagissez, Eric. Le taux, bon, il y a eu le chiffre OCDE sur le taux d'IS mondial. Il a arrêté de baisser. On tourne vers les 21. Nous, on est passé de 33 à 25. La recette sur la période, elle est passée de 35 milliards à 55 milliards. On a baissé le taux et augmenté la recette.
Oui, mais alors, attention, mais pas en 2023. Non, mais il faut quand même faire attention. Mais moi, je suis d'accord sur d'un point de vue théorique, la courbe de l'affaire, elle doit exister. Quel est le taux à partir de quel on est dans la phase descendante? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que quand on y est, il faut pas y être. Ça, on peut être d'accord. Dire que c'est bien d'y être, ça, je suis d'accord avec Philippe. En revanche, aujourd'hui, dire, vous voyez, on a baissé les taux d'IS et regardez, on a eu plus de recettes, je me dis attention. Oui, c'est ce qui a expliqué le dérapage du déficit en 2023, la mauvaise surprise. C'est-à-dire que globalement, c'est ce qu'on appelle les
2023,
élasticités.
Oui.
Mais oui, mais attention, c'est TVS. C'est-à-dire que il y a des élasticités.
TVA aussi, hein.
Quoi?
IS TVA.
Oui, d'accord. Mais oui, et attention pour 2024. C'est-à-dire que il y avait des élasticités des recettes au PIB qui étaient normalement elles sont unitaires. Quand le PIB augmente de 1, les recettes augmentent de 1. En moyenne, c'est toujours unitaire. Et là, pendant 2-3 ans, on est passé à des élasticités au-dessus de 1. D'accord? Et même, on est monté à 1,6. Et là, on disait, c'est la courbe de l'affaire. C'est la courbe de l'affaire. Quand le PIB augmente, quand on baisse les taux, vous voyez, même à PIB donné, on a des élasticités plus importantes. Et là, ce 1,6, en 2023, il est passé à 0,5. 0,5. Donc là, il y a personne qui a dit attention, peut-être qu'on n'est pas dans la courbe de l'affaire. Là, comment on explique cela? Et voyez, on avait fait nos prévisions avec maintenant des élasticités qui sont plus élevées que le PIB. Et ben c'est comme ça qu'on fait des grosses erreurs de prévision du déficit. Et donc attention à cela. Il faut prendre un peu de temps, d'accord, et regarder si on a bien eu une transformation structurelle de cette élasticité. Est-ce qu'elle est structurellement au-dessus de 1 maintenant? Et là, on pourra dire ça y est, on est dans la courbe de l'affaire. C'est pour ça que je mets un doute. Et un petit bémol, ne crions pas victoire trop vite, le 0,5.
Éric Philippe, pardonnez-moi,
un peu conjoncturel là-dessus.
Non, mais je vais vous donner une vision d'abord, parce que c'est mon métier un peu de la fiscalité. Donc la notion de 14 tranches d'imposition, c'est pas que la dernière à 90%, hein. Celle-là, elle pourrait influer directement dans un schéma d'affaires. Toutes celles
on
qui
pourrait passer
dessous,
les 100 avec une CSG progressive.
Retour d'ISF.
Et je ne sais pas combien est prévu la 13 et la 12.
Toutes celles qui sont en dessous, et ça fait 22 ans de carrière que je rencontre des particuliers dans mon métier, parce que je fais de l'investissement. Donc en fait, le calcul des impôts, on a vu tout. Hein, on a vu Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. On a vu des approches très très différentes dans ces visions. Il y a eu des réductions des tranches, enfin moins de tranches, donc des tranches plus allongées, des coefficients familiaux qui ont changé. Bon, ce dont on se rend compte, Nicolas, on est quelque part dans la courbe de l'affaire, mais c'est beaucoup plus rapide que ça chez un ménage. Le ménage, à partir du moment où il arrive à sa tranche marginale, parce qu'en France, c'est une tranche marginale par palier, je le rappelle pour nos auditeurs. Donc jusqu'à 11 000 euros, vous payez zéro, entre 11 000 et 24, en gros. Vous commencez.
Vous les connaissez par cœur, les.
Bah, c'est un petit peu.
Oui.
Il n'y en a que 4.
Hein. Oui.
Moi, aujourd'hui, il n'y en a que 4. Je te remercie de ton soutien, Eric, ça fait plaisir. Quand on arrive à un seuil, en particulier de la tranche de 30, puis ensuite 41, 45, vous avez des gens très clairement, beaucoup de professions libérales, des médecins, des petits chefs d'entreprise, qui se disent quel est l'intérêt à ce moment-là, sur certains investissements, de dépasser ça. Donc, c'est une mini courbe de l'affaire. Là, vous allez mettre 14 tranches, et donc, on sait très bien que les tranches vont être toujours assez favorable jusqu'à 30 et qu'il va y avoir 30, 35, 40, 45, 50, 55. C'est quasi sûr leur projet. Et là, vous allez avoir pas les grands riches qui vont partir vivre sur le lac Léman. Vous allez avoir tous les entrepreneurs, tous les artisans, toutes les professions libérales qui vont commencer à dire bah attends, le vendredi après-midi.
Ah mais je m'en souviens au moment du choc fiscal.
On a des musées magnifiques à Paris ou ailleurs. Je vais aller au musée, pourquoi je dois travailler? C'est pas un problème de gens qui partent à l'étranger.
C'est très concret, mais je me souviens qu'au moment du choc fiscal, fin Fillon, début Hollande, on rencontrait notamment des avocats qui bossaient plus le vendredi.
Oui.
À un moment, c'est plus la peine de. Tu sais que tu te réveilles et que tout ce que tu vas faire dans la journée, ça partira chez.
Pas tout. mais tu sais que ça devient à ce moment-là
à tout,
plus cohérent. Oui, ouais. Voilà. Donc bon. C'est
donc il y a de la démagogie, quoi. Voilà.
Bah, à l'époque des impôts, hein,
dans le programme, dans ces programmes.
Philippe,
je dis pas que tout. Alors moi je disais qu'il y a certaines doses d'impôts qu'on peut considérer. Moi par exemple taxe sur hôtel restaurant, on peut considérer que les TVA, par exemple, il y a eu des baisses de TVA. Ah, oui. TVA, ben peut-être certaines TVA pourraient être augmentées. Bon, il y avait l'IPP avait fait une étude très intéressante en disant que
publiques.
Les ultra riches en France peuvent ne payent que l'impôt sur les sociétés parce qu'ils peuvent se mettre en holding familial.
Oui.
Et vous savez qu'en France c'est beaucoup plus facile à faire qu'aux États-Unis. Moi j'ai toujours dit pourquoi on s'aligne pas sur la législation américaine qui n'est pas un pays bolchevique comme ça. Hein. Et bah déjà ça, ça permettrait que des gens très riches payent un peu plus. Il y a différentes choses qu'on peut imaginer. Vous voyez ce que je veux dire.
Mais Philippe.
Donc je ne suis pas du tout un dogmatique de la non augmentation.
On a quand même absolument pas évoqué la question des dépenses publiques et d'éventuellement les penser autrement. C'est aussi avant
absolument.
De parler fiscalité.
Absolument. Il faut faire les deux. Nicolas, ouais, juste avant qu'on passe au sujet d'après.
Oui, j'en ai plein.
L'erreur, parce que tu m'as posé la question, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est cet ISF sur l'outil de travail. Parce que déjà, pour moi, très profondément, le retour de l'ISF serait une idiotie absolue, mais je le dis depuis que j'ai 20 ans.
Mais surtout avec l'outil de travail, même Mitterrand ne l'avait pas fait.
Mais si tu mets l'outil de travail, ça va au-delà de 4-5 fortunes qui vont aller à Bruxelles ou en Suisse. Là c'est terminé.
Oui.
Personne ne va
investir. Allez réécouter la séquence de Denis Paire en fin de première partie d'émission, il y a 3 jours, qui a raconté sa propre expérience, où il a dû... pour éviter de se retrouver en faillite personnelle au moment où il devait payer, il a dû quitter la France et se barrer en Belgique.
Ouais.
Et il a dit, cette histoire d'ISF sur l'outil de travail, c'est le glyphosate de l'économie. Hein,
Et Denis Paire fait partie des gens qui disent qu'il n'avait pas du tout
envie
de
quitter son pays. Non, mais puis
il devait tout, son éducation, sa santé. C'est un traumatisme.
Et vous voyez d'ailleurs à quel point il le raconte cache.
Ah, bien sûr.
Il ne cache pas.
Et d'ailleurs, qui fait de la politique.
Bon, je ne sais plus où on va là, Eric. 25 milliards à trouver pour boucler 2024. Non, mais jamais on a fait ça.
Oui.
Là, on a sorti le décret à 10, puis on a essayé d'aller un peu plus loin, puis là, maintenant, c'est 5 de plus.
Ouais. Non, bah, ok. Non,
mais et l'Irex Econ nous dit 2025, il faut 60 milliards pour stabiliser la dette.
Oui, mais bon.
Waouh.
Wow. Non, mais bon, ok. Non, mais là maintenant, il faut.
On a 4 minutes 40.
Ok, alors je vais essayer de faire en une minute pour laisser du temps. Donc, globalement, vous voyez, ce qu'on nous demande, on est en procédure pour déficit excessif. Ce qu'on nous demande, c'est de
0,5.
Faire 0,5. Mais 0,5, ça fait combien de milliards, Nicolas?
De déficit structurel?
14. D'accord. Donc, pourquoi on te fait 25? On nous demande de faire 14. Faisons 14. Déjà, 14, ça serait bien, d'accord ? Et alors ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est-à-dire qu'il va falloir 14 cette année, 14 l'année prochaine, 14, ouais, ça va se cumuler. Donc le choc, il va être gigantesque, avec des effets un peu d'entraînement, même si on est un peu moins keynésien qu'avant, il faut quand même répéter qu'il y a quand même des effets d'entraînement, et donc peut-être qu'on n'aura pas...
Sur des montants pareils, vous avez forcément un effet récessif, c'est
obligatoire. Donc du coup, le choc, il est gigantesque, et le problème, c'est qu'on se prive de plein d'instruments, dont Philippe en a parlé, c'est-à-dire se dire, il y a un choc gigantesque devant nous, d'accord ? Mais... bien sûr, on le fait pas par les impôts. Donc toute la partie fiscalité, on va pas le faire. Même on va continuer un peu à les baisser avec les impôts à la production, etc. Ok, donc on les baisse. Et sur les dépenses, on va quand même sanctuariser un certain nombre de dépenses parce que d'abord les minima sociaux, faut pas trop toucher les pauvres. On va sanctuariser l'éducation, on va sanctuariser l'environnement. Donc on se dit et donc du coup, il y a un choc énorme mais qui va reporter sur un ou deux instruments et donc sur quelques pourcentages de la population, c'est pas possible. Vous voyez, il y a un moment, il va falloir qu'on choisisse. Soit le choc, on dit, non, il est trop violent, on le fait pas. Ouais. Soit on dit, il faut que tout le monde s'y mette et qu'on le répartisse sur tout le monde. Voilà, sinon, ça va pas être accepté. Donc, il va falloir qu'on sorte un peu de cela. Et au lieu de dire, c'est pas 14, ça va être 25. Mais il n'y a pas d'instrument. Déjà, 14, on sait pas. Donc là, maintenant, il va falloir qu'il clarifie.
Alors, par exemple, moi j'avais des idées là-dessus. Moi, je disais tout à l'heure, bon, par exemple, la TVA sur hôtel-restaurant. C'est un truc qu'on a dit. Incomplète des retraites élevées, par exemple. J'en sais rien si c'est une piste. Il y a d'autres niches fiscales auxquelles qu'on peut regarder. Je veux dire, en tout cas, il y a également transfert aux collectivités territoriales. Il faut regarder les transferts, où on les fait, comment on les fait. Il faut mettre à plat un certain nombre de dépenses. Je ne dis pas qu'il faut c'est ça, pas ça. Mais l'idée, c'est que tout le monde doit contribuer. On ne peut pas dire que c'est juste les chômeurs qui vont contribuer. Moi, ce que je trouvais très injuste avec la deuxième assurance chômage, c'est qu'on disait, on avait mis en même temps, hop, assurance chômage, on va changer assurance chômage. Là, je trouve que c'est très injuste. Il faut dire tout le monde doit contribuer. Et donc, je crois que les sacrifices... Moi, je crois qu'un des messages de cette élection, c'est que d'abord, une demande de plus de démocratie et une demande de sacrifices mieux partagés. Les gens sont prêts à faire des sacrifices si on peut montrer qu'effectivement, comme le dit très bien, ils sont partagés. Et tout le monde doit contribuer. On ne peut pas dire, non, les retraités, c'est notre clientèle, on n'y touche pas. Non, les restaurateurs, je ne peux pas être en mauvais terme avec eux. Les chômeurs, ni bloquent, et ceux qui bloquent le pays non plus. Donc, c'est ni ma clientèle, ni ceux qui bloquent le pays. Donc, je vais taper sur ceux qui sont ni ma clientèle, clientèle et qui bloque pas le pays, quoi. Ça, tu peux plus faire de la politique comme ça. Tu dois dire, tout le monde doit compter. Alors, il y avait eu l'idée d'année blanche ou d'année blanche partielle pendant un an. Mais en tout cas, dans l'année blanche, il y a beaucoup de choses qu'on, je suis pas d'accord, mais il y a quand même l'idée, si tout le monde contribue dans une année blanche. Année blanche indexée, tu vois.
Je sais plus qu'il avait sorti.
Une année, je sais plus. Mais en tout cas, l'idée que tout le monde doit contribuer. Ça, je crois que c'est très important.
Ouais.
Et on peut arriver à 15 milliards.
Bon.
Une année blanche indexée, tu arrives facilement à 15.
Sandrine Rousseau, elle dit que les retraités, les épargnants sont une partie de la solution.
D'accord.
Elle le dit avec un ton un petit peu Corée du Nord, mais elle le dit.
Je me demandais s'il allait me la garder jusqu'à la fin, Sandrine Rousseau, sur les épargnants.
Non, mais en 1 minute 20, parce qu'on
non,
a fini.
Mais... Non, mais ça va être beaucoup plus vite. D'abord, tout ça est complètement aberrant, mais vous savez qu'il existe en France des mécanismes avec la loi Sapin 2.
Aberrant, mais pas.
Non, mais il existe en France.
Je crois bien que Clément Barret a fait un emprunt obligatoire. Hein.
Attends, non, mais je réponds deux fois. Il y a le dispositif Sapin 2, qui permet, en cas de risque de marché, de pouvoir faire jouer des mécanismes qui pourraient récupérer directement dans les contrats d'assurance une partie. Ou alors l'autre solution qui est avancée par beaucoup de gens, ce que tu disais, c'est de créer un emprunt d'État qui, dans l'absolu, presque par décret, nous obligerait tous à devenir prêteurs de l'État français. Ce que nous sommes déjà. Mais alors jusque-là,
c'est
ce qu'en fait, 1300 milliards des assurances-vie sont sur des fonds euros à 90% en OAT.
C'est ce qui m'a dérangé chez Sandrine Rousseau, parce qu'elle a quand même un bagage en économie, et elle dit qu'il faut que l'épargne des Français aille vers le financement de la dette. J'avais envie de lui dire c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, c'est énorme.
C'est quand même bon...
Et pourquoi l'imposer pour l'instant? Encore une fois, les OAT, mais tu sais mieux que nous, on lève à des taux extrêmement faibles. Donc il n'y a pas de problème. C'est peut-être le jour où vraiment on n'y arrivera pas, et ben on fera appel à un grand emprunt, mais ça va nous coûter plus cher.
Japonaise, quoi.
Ouais. Eh bien, merci. Philippe Aguillon, Éric Heyer, Stéphane Van Uffel. Quoi donc ?
Eh bien, merci.
Ah ben voilà. Une belle semaine qui s'achève. Je crois qu'on a réussi à parler d'impôts tous les jours, hein, quand même. On n'a pas forcément parlé baisse de dépenses publiques tous les jours, mais impôts. Malheureusement, je crains que, oui, effectivement, l'histoire s'écrive un petit peu comme ça. C'était Jean-Marie Vittori, qui est quand même pas un sadofiscaliste, qui est le premier à avoir dit ici, vous n'échapperez pas, quoi qu'il arrive, à une solution fiscale parmi la panoplie.
Ah bah sinon, c'est les agences de notation qu'on a...
Et moi, les gens sont tombés dessus, tu sais, même Gilbert...
Et on n'a pas parlé de la transition écologique.
Non, je coupe là, c'est fini. 9h, lundi, au revoir.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.